Interview.
2 jours.
Les luthiers, c'est des artisans, mais qui doivent répondre à des besoins d'artistes que sont les musiciens, qui vont devoir interpréter leurs morceaux sur justement les instruments qu'on fabrique, mais qui sont des instruments qui suivent une tradition.
C'est-à-dire, c'est un métier entre l'artisanat et l'art, on peut peut-être dire. On travaille aussi bien l'esthétique que l'esthétique du bois et l'esthétique du son.
Nous sommes aujourd'hui à La Paillette, lieu-dit de la petite commune de Montjoux, en Drôme provençal, dans l'atelier flambant neuf de Lucie Girard et de Pierre Lamotte, un duo d'artisans d'une trentaine d'années spécialisés dans ce que l'on appelle la lutherie du quatuor, c'est-à-dire la fabrication de violons, de violoncelles et d'alto. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux spécialisés dans la conception d'instruments à cordes. Comment est-ce que vous êtes tombé dans ce monde de la lutherie
Moi, c'est vraiment parce que je suis violoniste à l'origine et que petite, j'allais chez mon luthier et j'ai trouvé ça... c'était vraiment magique de rentrer dans cet atelier, de sentir le vernis, de voir tous ces instruments. Ça m'a toujours fait rêver. Donc, c'est la pratique du violon qui m'a amenée à ça, quoi. J'avais envie de travailler le bois aussi. Ça, c'est un truc qui est venu un peu plus tard. Mais j'avais envie de côtoyer et la musique et l'artisanat du bois.
En ce qui me concerne, c'est à l'adolescence, quand on cherche un peu... un métier. Moi, j'ai commencé des études à la fac, donc qui font appel beaucoup à l'intellect, on va dire. Et en fait, j'avais besoin de faire des choses de mes mains. Après, dans la lutherie, ce qui est particulier, c'est qu'on fait sans cesse de la recherche aussi, parce que la musique, c'est quelque chose qui est complètement subjectif. Donc, de toute façon, on n'atteindra jamais le son parfait, ça n'existe pas. Et du coup, il y a une espèce de recherche, de quête du Graal qui ne pourra jamais se terminer. Donc ça permet de faire de l'artisanat, de travailler de ses mains et à la fois de faire de la recherche plus scientifique sur l'acoustique. Et c'est ça qui m'a attiré, de pouvoir mélanger justement ces deux choses et de fabriquer des choses concrètes avec ses mains et d'avoir un résultat, même s'il n'est jamais vraiment abouti, d'avoir... un point final sur quelque chose. Voilà.
Quelle a été votre formation pour devenir luthière et luthier, pour exercer cette profession?
Moi, j'ai fait une école... Il y a assez peu d'écoles en Europe, disons. J'ai fait une école en Angleterre, à Newark. Et c'est une formation qui dure 4 ans. Où on aborde la fabrication, un petit peu la restauration aussi d'instruments anciens. Et voilà, il y a une autre école en France, en Belgique, Allemagne et Italie. C'est un peu les grandes écoles en Europe.
Moi, c'est un peu le même. Donc, pareil, j'ai fait une école, donc c'est des écoles post-bac. Donc moi, j'ai fait une école en Belgique. Donc sur 3 années, on apprend vraiment... En tout cas, en Belgique, on fait quasiment que de la fabrication d'instruments. On aborde peu la restauration, qui est quand même un domaine important de la lutherie. Et après, la formation, je l'ai continuée en étant embauché dans un atelier à Lyon. Donc comme Lucie, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, enfin dans 2 ateliers différents, où c'était des ateliers de restauration d'instruments. Donc là, c'est tout un autre monde qui s'ouvre à nous, parce que la fabrication, c'est... On a un plan d'instruments, même, et voilà, il faut fabriquer un instrument. Et la restauration, c'est chaque fracture d'instrument doit être invisible, de l'extérieur en tout cas. Et là, ça fait bien continuer la formation. On voit beaucoup d'instruments passer. Donc ça forge aussi beaucoup l'œil sur l'esthétique des violons, parce qu'un violon ne ressemble pas à un autre violon quand on en voit beaucoup. Donc voilà, donc on s'est formé plusieurs années, et puis après on s'est installé à notre compte il y a une petite dizaine d'années, où maintenant on se consacre quasiment, enfin on se consacre que à la fabrication d'instruments. Et, voilà.
Donc ça, c'est un instrument sur lequel tu es en train de travailler en ce moment, Lucie?
Voilà, ouais, c'est un nouvel alto que je fabrique. Et j'en suis... voilà, donc là, j'ai commencé la voûte extérieure. Et pour l'instant, c'est plein. Je n'ai pas encore creusé à l'intérieur. Donc voilà, c'est... Ensuite, il va y avoir l'étape dont je vais finir ma voûte. Je vais incruster des filets ici. Hop, tout autour. Je vais creuser pour arriver à une épaisseur d'environ 3 mm. Puis je vais rouvrir les ouïes. Voilà. Les prochaines étapes sur la table d'harmonie. Alors on travaille avec les mêmes essences, c'est très traditionnel comme fabrication, c'est les mêmes bois qu'il y a quelques siècles. C'est l'érable pour le fond, les éclisses et la tête, et l'épicéa pour la table d'harmonie. On travaille aussi un petit peu avec de l'ébène pour la touche, même si c'est un bois qu'on va utiliser de moins en moins et on cherche des matériaux composites pour le remplacer. Et c'est des bois qui viennent de forêts européennes. Nous, on va souvent chez un fournisseur, c'est un bûcheron qui est à Fertan dans le Jura. Et puis après, il coupe des arbres... pas mal dans le Jura, et puis il voyage un petit peu aussi dans les pays de l'Est, dénicher la perle rare.
Parce que oui, effectivement, c'est un métier à part entière que de trouver un arbre, parce qu'un épicéa, on voit tout ce que c'est qu'un épicéa. Après, il faut trouver l'épicéa qui va avoir toutes les qualités acoustiques pour réaliser un instrument. Donc il faut vraiment qu'il ait poussé, par exemple pour un violon, pour donner un ordre d'idée, il faut qu'il pousse de... il a des veines, des cernes annuelles qui font environ 1 mm de largeur, donc ça veut dire que sa croissance est très ralentie par le fait qu'il soit à une altitude relativement élevée, qu'il ait un sol relativement pauvre. Et en plus, il faut que cet arbre il ait une croissance très, très régulière, très vertical, pour éviter que le bois fasse un peu des virages, tout ça, et que la vitesse de propagation de l'onde sonore soit la plus efficace possible. Donc il y a des gens dont c'est le métier de dénicher ces arbres-là, qui vont les repérer des années avant en forêt, et le jour où celui qui gère la forêt décide qu'il faut abattre certains arbres pour un bon équilibre de la forêt, et ben, ce marchand de bois de résonance va acheter cet arbre et va pouvoir le revendre à des luthiers, le faire sécher à l'air libre. Donc ça va sécher 4-5 ans avant de pouvoir être utilisé. Du coup, nous, on achète déjà des morceaux de bois débités qui font à peu près la forme d'un violon. On n'achète pas des troncs. C'est déjà quelqu'un qui a présélectionné et nous, on resélectionne dans son choix à lui.
C'est des petits radons qui sont, à ma connaissance, utilisés que par les luthiers. C'est vraiment une taille, c'est des rabots noisettes, ça s'appelle, qui sont vraiment minuscules. Ils font 3 cm de long. Et on utilise ces rabots pour creuser l'intérieur de la voûte, donc de la table et du fond, évider l'instrument. Et l'extérieur aussi, voilà. Quand même faire des instruments qui nous plaisent d'abord à nous. Donc on a quand même un son qui nous est cher et je pense qu'on retrouve quand même une petite patte dans les instruments. On peut reconnaître le fabricant quand on est un petit peu habitué. Après, on va aussi travailler pour des musiciens qui recherchent des choses en particulier, donc on va aussi travailler en amont avec eux, essayer de définir un petit peu les caractéristiques qu'eux recherchent. Et après, il y a une esthétique sonore, une esthétique visuelle qui est bien propre à chacun. On a des modèles particuliers qu'on aime bien fabriquer, on a un vernis, une couleur qu'on aime bien faire.
Qu'est-ce que c'est justement pour vous ?
Moi j'ai dessiné un modèle à partir de l'étude des instruments anciens italiens qui sont une grande inspiration pour nous. Donc voilà, j'ai mon modèle personnel qui a ses formes à lui. Je pense que toi aussi.
Bah moi en ce moment je travaille pas mal sur en fait la lutherie inspirante qui inspire beaucoup de luthiers, c'est la lutherie italienne du 18e, où là il y a les grands maîtres italiens, c'est tous les instruments qui marquent l'histoire de la lutherie datent de cette époque-là, la plupart en tout cas. Et moi en ce moment je travaille beaucoup sur un modèle des frères Amati. Donc après donc quand on parle de modèle, c'est vraiment le contour de l'instrument. Après je vais pas copier justement les voûtes, je vais pas copier l'instrument dans son volume. Là, je vais essayer d'adapter justement les choses à une sonorité que je recherche. Je vais faire des voûtes qui sont différentes. On pourrait s'amuser à les copier, mais moi, ça m'intéresse moins parce que c'est l'esthétique de l'instrument de face, on va dire, dont je vais m'inspirer. Après, il y a toujours des détails qu'on va modifier parce que il faut que ça nous plaise à nous aussi. Il faut se faire plaisir dans son... Et puis, de toute façon, notre main, notre geste, parce qu'on travaille beaucoup à la main, en fait, notre geste... n'est pas le geste du luthier de l'époque et il y a forcément des détails. On interprète aussi on interprète un modèle, quoi.
Lucie, c'est quoi ce violon, du coup ?
C'est un violon que je me suis fabriqué pour ma pratique personnelle. Parce que, voilà, il faut aussi savoir se faire plaisir. Donc j'ai pris un petit peu de temps pour m'en faire un. Donc voilà, c'est un violon que je joue... moi, ben, juste moi. Voilà.
Au travail du coup d'un luthier du 17e ou 18e, mettons Stradivarius par exemple, est-ce que dans votre manière de travailler ça ressemble vraiment à la manière dont il avait travaillé, ou est-ce que vous utilisez d'autres outils, ou ça a changé avec la technologie?
Les outils sont sensiblement les mêmes, la colle aussi, c'est toujours de la colle d'os, de nerfs, les outils, les gouges, les ciseaux, les outils spécifiques de luthier, la pointe aux âmes, c'est les mêmes. On a trois machines électrifiées dont on sert pour du dégrossissage, on va dire. Donc ça, c'est ce qu'on a en plus d'eux. Mais pareil pour les vernis, c'est les mêmes composants, l'huile de lin, colophane. Ça ressemble beaucoup à ce qu'ils utilisaient à l'époque, en tout cas. Ça n'a vraiment pas beaucoup, beaucoup changé.
C'est plus, on va dire, c'est la musique qui a changé, en fait. Et du coup, les instruments vont être... même les instruments de Stradivarius, qui est le luthier qui a marqué un peu tout le monde, ont été quasiment tous modifiés pour s'adapter à la musique actuelle. Quand les luthiers, ils s'adaptent aussi à la... aux tendances, aux compositeurs en fait, et à la taille des salles, où est-ce que les gens, quand on doit faire de la musique de chambre dans des espaces petits, les instruments ne doivent pas forcément projeter de la même manière que si c'est dans une grande salle de concert, en fonction du style de musique qui va être interprété, il y a des paramètres qui vont évoluer, d'angle de manche sur les cordes, les pressions ne vont pas être les mêmes, Et du coup, ça fait, c'est ça qui fait un peu évoluer la lutherie, quoi. Mais après, les méthodes de fabrication sont vraiment sensiblement les mêmes. Et on s'en inspire toujours, parce que, et on en redécouvre toujours. Il y a encore des choses dans leur méthode de tracé qui sont... Nous, on utilise beaucoup... à notre époque, on utilise beaucoup la mesure pour quand on fait un dessin. Et en fait... dans toute leur méthode de tracé, c'était vraiment c'est des proportions et c'est des choses qui sont faites au compas. Quasiment tout est fait au compas. Il y a pas besoin de mesurer une cote précisément. C'est juste des ratios qu'on peut faire grâce à un compas, en fait. Et du coup, dans toute la géométrie de l'instrument, on se rend compte aussi que c'est très harmonieux, parce que c'est que des parts de cotes entières qui vont être réutilisées. Et c'est ça qui fait aussi que l'objet violon est reste, parce que je pense que esthétiquement il a quelque chose qui est assez harmonieux dans ses proportions.
Entre un violon, un alto ou un violoncelle, quelles sont peut-être les grandes différences dans le processus de fabrication? Est-ce que ça, au final, ça ressemble dans la manière de le fabriquer, si ce n'est la taille qui diffère, ou est-ce qu'il y a des choses spéciales?
L'alto, c'est assez particulier. Je parle de l'alto parce que moi, j'en fabrique beaucoup. J'aime beaucoup cet instrument. Et il y a différentes tailles. Un violon, c'est sensiblement toujours la même taille, à un millimètre près. Et les altos, il y a plusieurs tailles, il y a plusieurs longueurs, plusieurs largeurs possibles. Il y a un travail là-dessus. C'est un instrument qui peut devenir très vite injouable, parce que c'est très gros à tenir dans le bras, mais en même temps, plus le coffre est grand, plus il va développer un son qui va être peut-être plus profond, avec plus de puissance, plus de grave. Donc il faut trouver toujours un juste milieu entre la taille du bras du musicien aussi, qui va pouvoir faire ses octaves sans s'écarter trop les doigts. Et un instrument qui a du coffre et qui est puissant, quoi.
C'est pas le violon qui m'a amené à la lutherie, mais je m'y suis mis parce que c'est quand même important, je trouve, de pouvoir le jouer un peu, de pouvoir le jouer pour régler la sonorité. Après, moi, j'ai la chance que Lucie joue très bien du violon. Du coup, ça aide aussi pour le réglage des instruments. De toute façon, les instruments, on va les régler avec les musiciens. On va les régler en fonction du jeu du musicien. Et on ne le réglera pas, même pour deux musiciens qui ont un jeu excellent, on ne le réglera pas de la même manière. C'est vraiment adapté à chaque musicien. Et en plus, en tant que luthier, nous, ce qu'on va écouter, c'est pas la complexité du morceau, ni la qualité d'interprétation. C'est vraiment, on développe un peu notre oreille sur l'écoute des textures, du son. C'est pas nécessaire de jouer des choses très virtuoses pour entendre la sonorité. Et du coup, pour moi, mon jeu de violoniste me suffit à entendre... on va dire, une partie du potentiel de l'instrument, et de faire des pré-réglages. Et ensuite, avec les musiciens plus éclairés, on va pouvoir affiner ces réglages-là. Mais ce n'est pas nécessaire, en tout cas, pour apprécier les textures sonores. Ce n'est pas nécessaire d'être un grand virtuose.
Pas nécessaire, mais très agréable de pouvoir faire quelques notes quand on vient de terminer un instrument, de pouvoir le faire sonner tout de suite. Et pas attendre de rencontrer le professionnel qui va pouvoir le faire sonner. Ça, c'est quand même une chance.
Ce moment où l'instrument est terminé, les premières notes qui vont être jouées dessus, alors que vous avez passé plusieurs mois sur sa fabrication, ça, j'imagine que c'est des moments un peu spéciaux.
Ouais, c'est un moment magique où... Bon, après, les premières notes vont pas forcément... en général, elles vont... évoluer un petit peu, le son va changer un petit peu, il va être joué une heure ou deux, le son va s'ouvrir pendant ses débuts. Donc Mais c'est un moment qu'on attend pendant des semaines à l'avance avec impatience. Donc ouais, c'est toujours assez magique et on prend le temps tous les deux d'apprécier la sonorité, de se faire nos retours.
Alors ici, dans votre nouvel atelier à Montjoux, est-ce que vous avez prévu de former des luthiers ou des luthières en devenir, d'accueillir des apprentis dans les années à venir, par exemple?
Alors on a fait ça récemment, là, quand on était à Féline dans le dernier atelier, on avait une stagiaire qui est à l'école de lutherie de Mirecourt, dans les Vosges. Et là, effectivement, quand on a plus d'espace, il y aura la place pour accueillir éventuellement d'autres stagiaires d'école, ouais, qui viennent se frotter un peu au métier avant de finir leur formation. Ouais. Avec grand plaisir d'ailleurs, parce que c'est toujours agréable d'avoir des futurs luthiers qui viennent apprendre des choses chez nous, mais aussi on s'enrichit des deux côtés. C'est toujours très intéressant comme échange. Ouais.
Quelle qualité faut-il selon vous pour exercer ce métier ?
La patience.
La patience. En fait, c'est comme beaucoup de métiers finalement, c'est l'envie, quoi. Si on a, parce que il y a plein de gens, je pense qu'il y a des luthiers qui sont pas patients dans la vie, mais quand on aime ce qu'on fait, on trouve le temps de le faire bien. Donc est-ce que c'est vraiment de la patience? Faut aimer la sonorité des instruments quand même, parce que sinon c'est un peu frustrant. Mais des qualités en particulier, je pense qu'il faut accepter aussi de se tromper. Faut accepter de se tromper, de faire des erreurs. Faut accepter de faire évoluer son travail, en fait.
Peut-être pour terminer, quel serait l'instrument parfait pour vous, celui que vous rêvez de fabriquer un jour ?
Je sais pas vraiment si c'est ce que... En tout cas, moi, je le connais pas, cet instrument parfait. Dans ma tête, il n'existe pas... Allez, visuellement, esthétiquement, j'ai peut-être des attentes sur certaines courbes. Dans la sonorité, c'est vraiment délicat, parce que même quand on regarde son travail qu'on a fait quelques années auparavant, on change, nos goûts, ils changent. Du coup, l'intérêt, c'est plutôt de pouvoir toujours faire un nouvel instrument, mais je suis pas sûr qu'il y ait un but à atteindre. Un instrument idéal pour son esthétique, pour sa sonorité et dont on serait fier à tout jamais, quoi. Je pense que c'est plutôt un ensemble d'instruments qui nous satisfont. C'est pour ça qu'on a envie d'en refaire derrière, parce qu'on se dit, ah ouais, mais maintenant j'aimerais faire autre chose. Et c'est pas que j'aime plus ce que j'ai fait avant, c'est plus qu'on a besoin de changement, on a besoin de faire des choses un peu différentes.
Ouais, je suis pas sûre d'avoir un idéal non plus. Effectivement, on a des attentes esthétiques qui sont tout le temps en train de changer avec ce qu'on va voir, les instruments anciens qu'on redécouvre aussi et qui nous inspirent. J'espère que, en tout cas, qu'on continuera à faire à chercher des nouvelles choses pendant longtemps, quoi. C'est ça qui fait vivre le métier.
Un grand merci à Lucie Girard et à Pierre Lamotte pour nous avoir ouvert les portes de leur atelier de lutherie à La Paillette. Les respirations musicales ont été interprétées par Lucie Girard sur un violon de sa confection. Le podcast de cette émission est à écouter sur www.radiola.media.
From Chicago. comet in the yard. Such a comet in the yard. Such a comet. Such a comet. Such a comet in the yard. Such a comet in the yard. Such a comet in the yard. Such a comet.
Thank you.